en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Chers amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission En habit vert. Un habit vert qui sera endossé aujourd'hui par Paul Valéry. Alors le 16 mars 1972, l'Institut de France, par le biais de l'Académie française, rendait un hommage solennel à Paul Valéry, dont on venait de célébrer le centenaire de la naissance. Prenaient ainsi respectivement la parole, sous la coupole, M. Gaston Palevski, membre de l'Institut, qui parlait au nom des cinq académies, M. René Huyghe, de l'Académie française, qui s'exprimait au nom du Collège de France, et enfin M. Jean Guiton, de l'Académie française, qui prenait la parole au nom de cette académie. Alors il n'est peut-être pas inutile de rappeler à nos auditeurs quels furent et le parcours et l'œuvre de Paul Valéry. Né à Sète, en 1871, d'un père corse et d'une mère génoise, Paul Valéry a fait ses études primaires dans cette même ville, chez les Pères Dominicains, et ses études secondaires ensuite au lycée de Montpellier. En 1889, alors qu'il est étudiant en droit, il publie ses premiers vers, encore très marqués par l'école symboliste et son maître Stéphane Mallarmé. C'est véritablement 3 ans plus tard, dans la nuit du 4 au 5 octobre 1892, que Paul Valéry connaît l'un des événements qui vont sans doute le plus durablement le marquer, une véritable crise existentielle qui le frappe alors qu'il se trouve à Gênes et qu'il considère lui-même comme sa nuit pascalienne, à l'issue de laquelle il décide, selon ses propres mots d'ailleurs, de ne plus se consacrer désormais qu'à la vie de l'esprit. C'est un moment fondamental puisque toute sa vie durant, le poète la regardera comme le moment de sa vraie naissance au monde des idées. Installé à Paris à partir de 1894, le jeune homme devient d'abord rédacteur au ministère de la Guerre. Il sera ensuite le secrétaire particulier d'Édouard Lebet, qui était à l'époque l'administrateur de l'agence Havas. Il faut se souvenir de ce qu'a été l'agence Havas au début du XXe siècle, principal vecteur de l'information dans un monde qui, bien sûr, ne connaissait encore ni la radio sans fil, ni la télévision. C'est durant la Première Guerre mondiale que Paul Valéry se fait remarquer dans le Landerneau des lettres françaises en publiant, dès 1917, son recueil intitulé « La jeune Parque », alors salué par André Gide. Suivent en 1920 Le cimetière marin, puis en 1922 Charme. Classé comme l'héritier spirituel de Stéphane Mallarmé, Paul Valéry est au lendemain de la guerre un poète reconnu et unanimement célébré. En 1924, il devient président du Pen Club français et en 1925, donc un an plus tard, il est élu au 38e fauteuil à l'Académie française. Alors, anecdote, sa réception par Gabriel Anoto au fauteuil d'Anatole France est restée longtemps dans les annales puisque Paul Valéry a réussi le tour de force de rendre hommage à son prédécesseur sans le citer une seule fois. Il s'agissait en fait de quelque chose qui était tout à fait contraire aux usages de l'Académie, mais d'une petite vengeance de Paul Valéry qui en fait n'avait jamais pardonné à Anatole France d'avoir refusé 53 ans plus tôt, de publier dans la revue dont il était le directeur, le Parnasse français, le manuscrit de l'Après-midi d'un faune de Stéphane Mallarmé, maître et idole de Paul Valéry. Comblé d'honneur, Paul Valéry est encore nommé en 1937 au Collège de France, qui crée spécialement pour lui la chaire de poétique et non de poésie. Travailleur inlassable, Paul Valéry continue de publier régulièrement et d'année en année. On lui doit dans l'entre-deux-guerres une introduction à la méthode des Léonard de Vinci et la soirée avec Monsieur Test. Il est déjà l'interlocuteur des plus grands esprits scientifiques de ce premier XXe siècle. On pense à des gens comme Bergson, comme Einstein et puis également à Raymond Poincaré ou à Louis de Broglie. Durant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'à l'issue de la malheureuse campagne de France, la France demande l'armistice, Paul Valéry, refusant de collaborer, perd la plupart des postes auxquels il avait été nommé dans l'entre-deux-guerres. Le discours qu'il prononce en tant que directeur de l'Académie à la mort de Bergson fut d'ailleurs jugé par ses contemporains comme un acte de bravoure et de résistance. Ironie du sort, Paul Valéry, qui avait reçu à l'Académie française Philippe Pétain, élu en 1931, apparaît désormais comme son principal adversaire sous la coupole. Paul Valéry s'est d'ailleurs opposé avec véhémence à la volonté d'Abel Bonnard, autre académicien français, qui avait souhaité que l'Académie rende un hommage appuyé au maréchal à l'issue de la tragique rencontre de Montoire. Paul Valéry est mort le 20 juillet 1945. Il a eu droit à des obsèques nationales par volonté du général de Gaulle. Il repose aujourd'hui à Sète, sa ville natale, dans ce cimetière marin qu'il a si bien chanté et qui a été chanté par un autre poète, Brassens. Alors il n'est peut-être pas non plus superflu de présenter brièvement les trois membres de l'Institut de France qui participaient à l'hommage solennel rendu à l'auteur de La Jeune Parc en ce 16 mars 1972, successivement Gaston Palevski, René Huyghe et Jean Guiton. Gaston Palevski tout d'abord, personnage marquant de la vie parisienne de l'après-guerre. Gaston Palevski est né à Paris en 1901 et mort au château de Saint-Chéron dans l'Essonne en 1984. Ancien pilote de chasse durant la Première Guerre mondiale, il fut parmi les rares Français à avoir combattu les Italiens en Éthiopie dans les années 30 et il est de ceux qui ont choisi de rejoindre le général de Gaulle à Londres dès 1940. Il fut d'ailleurs par la suite le directeur de cabinet de Charles de Gaulle de 1942 à 1946. Gaston Palevski a été ministre durant la 4e République comme sous la 5e. Il fut aussi tour à tour diplomate, vice-président de l'Assemblée nationale et président du Conseil constitutionnel, ce qui fait là un cursus honorum remarquable. Quant à René Huyghe, né à Arras en 1906, mort à Paris en 1997, il fut tout à la fois écrivain, psychologue et philosophe de l'art. Il a également été durant plusieurs années l'un des plus brillants conservateurs du musée du Louvre. René Huyghe a été élu à l'Académie française le 3 juin 1960. Jean Guiton, enfin, qui est sans doute le plus connu du grand public, stéphanois né en 1901, mort à Paris à la veille de l'an 2000, philosophe catholique, ami de Paul VI qu'il avait connu lorsqu'il n'était encore que le cardinal Montini, c'est en revanche à l'amitié d'un autre pape, Jean XXIII, qu'il obtint la faveur non seulement de suivre les débats du Concile Vatican II, mais même d'y participer. Ce grand admirateur de Blaise Pascal était aussi passionné de science. Il fut d'abord élu à l'Académie française en 1961, puis en 1987 à l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, comme le soulignait Gaston Palevski ce 16 mars 1972, Paul Valéry, compte tenu de l'étendue de son savoir, aurait parfaitement pu appartenir aux 5 académies qui forment l'Institut de France. Il aurait par exemple pu faire valoir devant l'Académie des sciences la démarche scientifique qui a toujours caractérisé son activité intellectuelle, son goût de la rigueur et son analyse des concepts. Au lieu de cela, Paul Valéry se moquait de lui-même en disant, je le cite, « Devant les mathématiques, je suis comme un chien qui regarde un os à travers les barreaux d'une cage. » Paul Valéry aurait aussi pu prétendre à l'Académie des sciences morales et politiques puisque, avec la même rigueur, il a aimé décortiquer tous ces petits faits dont l'accumulation quotidienne s'ordonne en ligne de force, comme le notait Gaston Palevski, qui rappelait aussi ce bon mot de l'auteur de La Jeune Parc, je cite « Il est probable que Louis XVI n'eût pas péri sur l'échafaud sans l'exemple de Charles Ier, et que Bonaparte, s'il dut méditer le changement de la République romaine en un empire fondé sur le pouvoir militaire, ne se fût pas fait empereur. » Gaston Palevski poussait d'ailleurs plus loin encore l'hommage à la clairvoyance politique de Valéry, estimant qu'on doit à son esprit neuf ce constat qu'avec l'avènement du XXe siècle, l'ère de libre expansion s'éclose. Et c'est un fait que, bien avant la décolonisation et l'époque de ce qu'on appelle aujourd'hui la globalisation, le poète constatait que le temps du monde fini commence et qu'une solidarité nouvelle, à la fois excessive et instantanée entre les régions et les événements, en était la conséquence. Désormais, les parties du monde finies et connues se relient nécessairement entre elles de plus en plus, quand jusqu'alors, toute politique spéculait sur l'isolement des événements. Le premier encore, Paul Valéry, pose le diagnostic suivant, je le cite, « Les effets des effets qui étaient autrefois insensibles ou négligeables relativement à la durée de la vie humaine et à l'ère d'action du pouvoir humain se font sentir presque instantanément à toute distance, puis reviennent aussitôt vers leur cause. Les desseins longuement suivis, les profondes pensées d'un Machiavel ou d'un Richelieu auraient aujourd'hui la consistance et la valeur d'un tuyau de bourse. » Quelle actualité encore lorsqu'on lit ces autres lignes de Paul Valéry, je le cite à nouveau, « les Européens se sont disputés le profit de déniaiser, d'instruire et d'armer des peuples immenses, immobilisés dans leurs traditions et qui ne demandaient qu'à demeurer dans leur état. Nous avons étourdiment rendu leur force proportionnelle aux masses. Esprit lucide, spectateur désabusé, on sait le constat célèbre dressé après le grand suicide de l'Europe au lendemain de cette Première Guerre mondiale. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Paul Valéry aurait tout aussi pu prétendre à l'Académie des Beaux-Arts. Fin connaisseur de ce monde aujourd'hui totalement disparu, mais si finement décrit par Marcel Proust, Valéry émargeait aussi dans les salons où l'on croisait au début du XXe siècle ce qu'il était convenu d'appeler à l'époque le monde et la ville. À Montmirail, tout d'abord chez la duchesse de la Rochefoucauld, où il croise régulièrement Maurice Ravel, Arthur Rubinstein et Henri Brémond. À Paris, dans l'appartement des Godebski dont les murs étaient tendus de Vuillard et de Manet, rue d'Athènes, là où il s'est lié avec Stéphane Mallarmé et avec Pierre Louys, avec Léon-Paul Fargue ou André Gide. Et enfin chez les Henri Roire, rue de Lisbonne, où Paul Valéry rencontre Degas et Manet, là même où planait encore l'ombre puissante de Berthe Morisot. Ce serait faire injure à Paul Valéry que de chercher encore les raisons qui l'ont fait élire à l'Académie française en 1925, ou celles qui auraient justifié son élection aux inscriptions et belles lettres. Alors nous nous retrouvons après ce bel hommage rendu au nom des cinq académies par Gaston Palevski à Paul Valéry, puisque après Gaston Palevski venait le tour de René Huyg de l'Académie française qui prenait la parole au nom du Collège de France. René Huyg choisissait de s'attacher à l'intérêt que Paul Valéry avait éprouvé vers 1894 pour la méthode de Léonard de Vinci. Une méthode sur laquelle l'auteur de La Jeune Parc devait se pencher d'ailleurs à plusieurs reprises dans sa vie. L'origine de cet intérêt pour Léonard et sa méthode peuvent sans doute se trouver dans la similitude des époques dans laquelle ont grandi et vécu et le peintre génial et le grand poète. En effet, comme le XVe siècle, le XXe siècle, à ses débuts, est une époque de certitude qui porte en soi la prospérité et la paix. Ce sont là deux données fondamentales qui vont pourtant rapidement se lézarder. Comme l'observe René Huyg, on est passé en quelques années d'une longévité qu'on croyait quasiment définitive à une existence périssable. Léonard de Vinci apparaît quand le Moyen-Âge s'anéantit. Paul Valéry est quant à lui issu d'un siècle nourri par l'illusion que la science peut tout et que le progrès est continu. Même analogie encore quant au rapport aux dieux. Léonard est le premier à concevoir cette espérance des hommes, à concevoir ou à prendre eux-mêmes en main leur destin. Et Paul Valéry fut le premier à deviner la faillite de ce système. En cela, tous deux, Léonard de Vinci et Paul Valéry, sont représentatifs de ce qu'on a appelé les temps modernes. À son tour, Jean Guiton de l'Académie française prenait la parole, au nom d'ailleurs de l'Académie. Je le cite. L'union de Paul Valéry et de l'Académie française eut le caractère des unions heureuses où l'on s'apprécie d'autant plus qu'on se connaît davantage. Ils avaient des ressemblances profondes, le goût du langage, le respect de certaines conventions, plus encore la pudeur de cacher leur sérieux essentiel sous des cérémonies en apparence inutiles, sous des occupations en apparence frivoles, note le philosophe chrétien. Revenant ensuite, avec esprit, sur la modestie de Paul Valéry qui avait déjà été évoquée par Gaston Palevski, Jean Guiton se faisait l'avocat du diable, s'amusant de cette modestie feinte, mais d'ailleurs bien pardonnable chez l'auteur du Cimetière marin. « Il existe, explique Jean Guiton, une ironie, un bon usage du paradoxe et d'une feinte modestie. » L'ironie de Valéry, c'était justement de laisser croire qu'il avait composé le Cimetière marin par hasard et par calcul. Et il écoutait d'ailleurs en Sorbonne M. Cohen en faire l'exégèse, sans vouloir ni pouvoir prononcer. Il savait bien qu'un disciple pourvu de tous les secrets n'aurait rien fait de valable. Cela me porte à penser, ajoute encore Jean Guiton, que Paul Valéry, quoique se disséquant, se scalpant, se testifiant ironiquement, se savait en fait invulnérable. Il convient de l'admirer sans vouloir le refaire, de le louer sans le croire, d'espérer le suivre en désespérant. Maniant le paradoxe, l'immortel Jean Guiton s'interrogeait ensuite sur le sens de la mort chez Paul Valéry. Je cite Guiton, « Ce point m'est sensible, et faut-il prendre Valéry au mot quand il chante la mort en tant qu'elle dissout le familier, qu'elle est crâne vide, rire éternel ? Ce qu'il a décrit ici, n'est-ce pas l'opération préalable à la décomposition, comme lorsqu'il défaisait la pincée de tabac chez la Pérouse devant Alain et Mondor pour leur expliquer la genèse d'un poème ? Il arrivait à notre confrère d'ouvrir des auteurs mystiques, de lire Brémond, d'admirer une jeune fille entrant au Carmel et, préférant le tout au rien, il avait dans l'idée, comme Plotin, comme Maître Eckhart, comme Jean de la Croix, que le tout et le rien se ressemblent et que c'est par le rien qu'on trouve le tout, que le néant est l'ombre de l'être, que la négation est une affirmation douloureuse, que la cendre annonce le feu, la mort la vie, le cimetière une recomposition, que le hasard suppose un ordre, que la vraie nécessité s'appelle amour. Nous trouvons d'ailleurs dans ces cahiers plusieurs fulgurations qu'auraient approuvées les théologiens de la kénose. Et Jean Guiton de préciser, l'épouse de Paul Valéry qui fut un témoin pieux et le plus pur, me disait un jour qu'elle était édifiée par sa patience, par la sainteté avec laquelle chaque jour il remettait tout en question, lui, l'insatisfait, dans un travail incessant, de jour, de nuit, d'aurore, qui ne consistait pas seulement à faire, mais à être. Et elle me montrait ce dernier soupir qui clôt ses cahiers, écrit au crayon d'une main mortelle. Le mot « amour » ne s'est trouvé associé au nom de Dieu que depuis le Christ. Des mots qu'il employait rarement prennent dans ses lignes une valeur singulière. Le discours prononcé en ce 16 mars 1972 par Jean Guiton rejoignait alors celui de Gaston Palevski, puisque l'ancien ministre du général de Gaulle avait ainsi terminé son allocution. Je le cite. « Le 30 mai 1945, Valéry notait dans son dernier cahier « J'ai la sensation que ma vie est achevée, c'est-à-dire que je ne vois rien à présent qui demande un lendemain. Ce qui me reste à vivre ne peut plus être désormais que du temps à perdre. » Après tout, j'ai fait ce que j'ai pu. Plus fort que le vouloir vivre et le pouvoir comprendre est donc ce sacré cœur, ce mal nommé. Je voudrais au moins trouver le nom de ce sacré résonateur. Le cœur consiste à dépendre. En somme, je me sens dans un au-delà. À rien ne m'est plus. Je voudrais, chers amis auditeurs, pour conclure, donner à nouveau la parole à Gaston Palevski, lui qui refermait cet hommage rendu par l'Institut de France à Paul Valéry, de l'Académie française, en ce 16 mars 1972, par ces mots, et je cite Gaston Palevski, « L'œuvre demeure, elle est là, invoquée toujours par les meilleures intelligences de ce temps. Elle reste un des messages permanents de l'esprit français pour les générations qui se succèdent. » Avant de vous quitter, j'aimerais aussi vous faire entendre quelques vers parmi les plus célèbres de Paul Valéry. Ils sont extraits du Cimetière marin, œuvre emblématique s'il en est. On y retrouve toute la musicalité d'un poète qui a toujours avoué privilégier la forme par rapport au fond et, pour peu que l'on ferme les yeux et que l'on s'abandonne à la douce mélodie de ses vers, on comprend mieux pourquoi Paul Valéry fut en son temps considéré comme le chantre de la Méditerranée et de la Grèce du temps des mythes.
Pour vous donner envie de lire ou relire le célèbre Cimetière marin, voici les trois premières strophes de ce long poème que nous écoutons ensemble grâce à Fernand Guillot.
Ce toit tranquille où marchent des colombes, entre les pins palpitent, entre les tombes. Midi le juste y compose de feu la mer toujours recommencée. Oh, récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Quel pur travail de fins éclairs consume main diamant d'imperceptible écume. et quelle paix semble se concevoir. Quand sur l'abîme un soleil se repose, ouvrage pur d'une éternelle cause. Le temps scintille et le songe est savoir. Stable trésor, temple simple à Minerve, masse de calme et visible réserve, eau sourcilleuse, œil qui garde en toi tant de sommeil sous une voile de flamme. Ô mon silence, édifice dans l'âme, mais comble d'or aux mille tuiles, toi.
Voici, pour terminer en beauté cette lecture, les deux dernières strophes du Cimetière marin.
Oui, grande mer de délire douée, peau de panthère et clamille de trouée, de mille et mille idoles du soleil, hydre absolue, ivre de ta chair bleue, qui te remord l'étincelante queue dans un tumulte au silence pareil. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. L'air immense ouvre et referme mon livre, la vague en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, page tout éblouie, rompez, vague, rompez d'eau réjouie ce toit tranquille où picoraient des phoques.
Je voudrais encore vous donner le moyen d'aller plus loin dans la connaissance de Valéry et de son œuvre en vous donnant une brève liste d'œuvres de Paul Valéry toujours disponibles en librairie. Alors, on trouvera surtout chez Gallimard les œuvres suivantes. Une correspondance à trois voix qui en fait regroupe les écrits d'André Gide, de Pierre-Louis et de Paul Valéry pour les années 1888-1920 et que Gallimard a réédité en 2004 dans l'édition de Peter Fawcett et de Pascal Mercier. On le trouve dans la collection blanche chez Gallimard. Autre correspondance, la correspondance avec André Gide pour les années 1890-1942. Elle date de 1955. On la trouve toujours dans la collection blanche chez Gallimard. La Jeune Parc, bien sûr, qui date en fait de 1917, mais qui a été rééditée à plusieurs reprises. On trouve toujours la nouvelle édition de 1992, fidèle au manuscrit autographe et au texte de l'édition de 1942, dans la collection blanche chez Gallimard. L'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, dont je vous parlais tout à l'heure, disponible dans la collection Folio Essai, rééditée par Gallimard en 1992. Et enfin, Monsieur Test, initialement paru en 1919, qui a été réédité en 1969 dans la collection Idée par Gallimard et qui est toujours disponible et qui, je crois, a également été réédité en 1978 dans la collection L'Imaginaire. Chers amis auditeurs, merci beaucoup et à très bientôt.